Et maintenant, vous allez pouvoir suivre la prière d'intercession et la prière de louange, un enseignement du Père Michel Leclerc, chanoine de la Grâce à Pau. Il était enregistré à l'occasion des sessions à l'école de Saint-Augustin proposée par l'école de prière de la formation permanente du Berne, un enregistrement réalisé le 27 janvier 2026 à Pau. Nous écoutons le Père Michel Leclerc.
La dernière fois, on avait vu la prière dans le Christ. Cette fois, je voudrais partir d'une expérience que nous avons tous et que saint Augustin a rencontré lui aussi. C'est la question qu'on se pose, est-ce que Dieu entend nos prières? Première question, et question subsidiaire, à quoi sert-il de prier? Alors, dans cette prière que je vise ici, c'est d'abord la prière d'intercession. Voilà, on nous dit prier pour un malade. Vous voyez là, en début de semaine, on m'a demandé, j'ai des amis qui m'ont appelé, qui m'ont dit de prier pour un jeune garçon qui avait fait une chute au judo, qui était dans le coma. Et puis 3 jours après, ce garçon, il est mort. Et dans ces cas-là, on se demande, mais alors, à quoi ça sert de prier? Et voilà, est-ce que prier, d'abord si Dieu est tout-puissant, si Dieu sait tout, est-ce que ça sert à quelque chose que l'on multiplie des prières? Il sait bien ce dont nous avons besoin. Hein, c'est des sujets qui sont très très concrets, hein, vous voyez. Voilà, on prie pour un ami malade, on prie pour qu'une famille puisse avoir un enfant, on prie pour un mariage, pour qu'un mariage tienne, voilà. Et ça ne marche pas. Donc ça nous permet de nous poser la question de quel est notre rapport à la prière et notre rapport à Dieu. Et c'est une question qu'Augustin s'est évidemment posée. Alors il prend un exemple très simple qui va nous aider à comprendre. À un moment, il en a eu ras-le-bol de l'Afrique. Qui était, je vous l'avais dit, hein, c'était Saint-Tropez, l'Afrique, c'était une belle région, mais monsieur était ambitieux, et donc il a voulu monter à la capitale, partir à Rome. Et puis bon, l'empereur étant à Milan, il est passé de Rome à Milan, mais donc il avait à traverser la Méditerranée, et sa mère, qui connaissait son fils, a tout fait pour l'en empêcher. Elle a pleuré, elle l'a supplié, elle lui a fait du chantage, enfin voilà, une bonne mère africaine, méditerranéenne. Et surtout, elle a prié. Elle a prié, mais elle a passé des nuits en prière pour que son fils ne parte pas à Rome, parce qu'elle savait qu'il était en danger. Et Augustin est quand même parti à Rome, il a menti à sa maman, il lui a dit « promis, je reste ». Et pendant qu'elle est partie dormir, il a pris un bateau, il a traversé. Donc, échec de la prière de Monique. Et Augustin, alors il le fait à plusieurs endroits, mais notamment à cette occasion, se pose la question de mais alors, pourquoi prier? Est-ce que ma mère avait échoué? Et je pense qu'on s'est tous un jour posé la question, est-ce que j'ai échoué dans ma prière? Et ça dénote un rapport à Dieu qui n'est pas tout à fait juste. Louer Dieu, vous voyez, que je représente comme ceci, là, en haut. Et puis nous, sur terre. Puis Dieu qui nous voit. Et puis un peu comme un grand chef, là, qui se dirait, tiens, ben, je vais envoyer une épreuve à un tel. Ou un tel me demande quelque chose. Bon, je vais le faire attendre un peu. Et puis non, tiens, on va le tester, on va faire un crash test, comme disent les jeunes. On va le tester, on va pas lui répondre. Voilà, et vous sentez bien, alors je caricature, mais vous sentez bien ce qu'il y a de faux. Et pourtant, nous avons tous quelque chose de ce rapport à Dieu. Deuxième erreur, c'est, bon, pour que Dieu cède, il faudrait une quantité, vous voyez, comme s'il y avait une balance à plateau, là. Et on se disait, bon, ben, pour faire pencher le plateau, il faut rajouter des prières.
Alors pour obtenir la vie du petit garçon, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de prières. Et comme si sa vie était mise à prix. Vous sentez ce qu'il y a de malsonnant là-dedans. Mais pourtant, on a un peu ça quand même en arrière-fond de temps en temps. Et on peut se demander, mais finalement, à quoi sert la prière d'intercession ? C'est-à-dire demander quelque chose à Dieu. Puisqu'il est tout-puissant, et puisqu'il est parfait, il sait tout. Et Augustin nous répond, Dieu veut nous faire participer au gouvernement du monde. C'est-à-dire qu'il a, dans son infinie sagesse, Dieu veut qu'il y ait des choses qui dépendent de notre prière. Vous voyez, c'est pas « je donnerai si tu me demandes », quand on a... Quand on était, moi, quand j'étais en cours de récréation avec, à l'école primaire, on pouvait, dire à, je te donnerai une bille si tu m'en donnes deux autres, un galop contre deux billes, je ne sais plus les prix exacts, hein, ou alors si tu me fais mon exercice de maths, ou si tu me tiens la porte, ou si tu me passes ton dessert à midi. Ouais, je fais monter les prix. Ce n'est pas ce que fait Dieu. Dieu, par miséricorde, nous dit « Ce que vous demandez, je n'y suis pas indifférent. Et il y a des choses que je veux faire dépendre de votre demande, que je ne donnerai que si vous les demandez. » Mais c'est une pure miséricorde de sa part. Vous voyez, c'est, il nous associe à sa toute-puissance à travers notre supplication et notre intercession. Mais vous allez dire, et quand ça ne marche pas ? Ce qui est quand même un nombre conséquent de cas. Hein. Augustin a une belle formule, il dit, Dieu nous exauce en ne nous exauçant pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est... Augustin prend au sérieux la phrase « Demandez et vous recevrez ». Si le Seigneur nous l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc si je demande, je reçois. Mais je ne sais pas ce que je reçois. Et parfois je demande la vie d'un enfant et c'est pas ça que je reçois. Cet enfant, ben voilà, il est, en l'occurrence, voilà le cas dont je vous parle, il était blessé. Et Dieu n'a pas voulu faire un miracle pour le sauver. Il avait fait sa chute, son corps était trop abîmé, il aurait fallu un miracle. Dieu n'a pas voulu faire ce miracle-là. En revanche, puisque beaucoup ont prié, nous savons que ces prières sont exaucées. Nous avons demandé la vie de cet enfant. Dieu nous répond autrement. Et Augustin prend l'exemple de sa mère. Monique a demandé à Dieu que Augustin ne parte pas à Rome parce qu'il aurait été en danger. Sauf que Augustin est parti quand même à Rome. Dieu n'a pas fait un miracle pour qu'il y ait une tempête ou pour que les bateaux sombrent au fond de la mer. Mais la prière de Monique a été exaucée parce que de Rome, Augustin est parti à Milan, parce qu'à Milan, il a rencontré Ambroise et parce que la rencontre d'Ambroise l'a converti. Mais ça, pour le voir, il faut être du côté de Dieu, dans la toute-puissance divine, et nous ne le voyons pas. Et donc nous avons l'impression que notre prière d'intercession n'est pas du tout exaucée. En fait, elle est toujours exaucée d'une manière mystérieuse. Enfin, alors c'est très frustrant pour nous. Oui, moi je sais que comme prêtre, c'est parmi les choses les plus difficiles à l'expliquer à une maman qui a perdu un enfant, que sa prière n'est pas vaine. Elle va dire, j'ai prié, et mon enfant, il est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pleurer avec elle. Mais je peux lui dire, la seule chose que je sais, dans la foi, dans l'obscurité, c'est que votre prière a été entendue par Dieu. Et que donc Dieu vous exauce d'une manière mystérieuse. Et ça, c'est le grand thème chez saint Augustin. Apparemment, ce monde semble désordonné. Il dit, Dieu, par sa miséricorde, remet de l'ordre dans le monde. Voilà. Et notre prière,
sert à remettre de l'ordre dans un monde qui est désordonné par le péché et la mort et la souffrance. Dieu n'a pas voulu la mort, il n'a pas voulu la souffrance, qui sont la conséquence de l'introduction du mal et du péché dans le monde. Et notre prière est une collaboration avec Dieu pour remettre de l'ordre dans ce monde. Mais nous, quand on veut mettre de l'ordre, on prend tout et on met tout côte à côte. L'ordre de la miséricorde, c'est l'ordre de la grâce, c'est un ordre mystérieux qui échappe à notre compréhension. Donc, Dieu remet de l'ordre comment ? Eh bien, par exemple, en consolant une famille qui est endeuillée. Mais voyez, je ne peux pas le dire. C'est pas moi qui vais dire, c'est insupportable d'aller dire à une maman qui vient de perdre son enfant, rassurez-vous, Dieu remet de l'ordre. Hein, donc, c'est humainement, c'est abaffé. Celui qui fait ça, il prend une paire de claques et il l'a bien mérité. Mais dans la foi, je sais que Dieu donnera d'une manière mystérieuse, incompréhensible, à un moment qu'il a choisi parce qu'il sait que c'est le bon, une grâce de consolation, de conversion, etc. Alors, j'ai vu que qu'on devait traiter ce sujet, qui est un sujet difficile. Et je repensais à un des moments les plus durs de ma vie de prêtre. C'est un très jeune couple que j'ai dû marier. J'ai préparé au mariage, j'ai marié. Et je me suis attaché parce que c'était des gamins, vraiment. Ils avaient 20 et 21 ans. Ils avaient déjà eu un enfant avant. Enfin, voilà, je les ai mariés, donc il y avait un sentiment de paternité qui s'était installé. Ils avaient déjà leur premier enfant, ils ont eu un deuxième enfant qui est mort à 9 mois, d'une mort subite d'une nourrisson. Et la première personne qu'ils ont appelée, c'était moi, je me souviens très bien, il devait être 14h et je m'étais un peu endormi sur mon bureau. Et le téléphone sonne, je vois que c'est eux, je réponds et ils me disent « Agathe est morte ». Donc Agathe, c'est leur petite fille. Et moi, je me suis retrouvé sec. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? J'ai balbutié, puis je me suis mis à pleurer avec eux, puis bon, je les ai rejoints. Et je les ai accompagnés. On a enterré cette petite fille avec un cercueil qui faisait 40 cm. Et ils en ont bavé. Ils étaient tous les deux très très blessés et en colère. En colère contre Dieu. Je leur disais, priez avec votre colère, vous avez le droit d'être en colère. Je me souviens d'un jour où j'ai dit au papa, Agathe est au ciel. Et il m'a répondu, j'en ai rien à faire qu'elle soit au ciel. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit dans mes bras. Et je lui dis, je te comprends. Et puis voilà, moi, je l'ai serré dans mes bras. Mais il y avait quelque chose pour moi de mystérieux. Et il se trouve que dimanche soir, ils m'ont appelé. Donc, c'est la mort de ce petit bébé, c'était il y a 5 ans. Oui, c'est ça. Et ils m'ont dit, la maman est partie faire une retraite, et pendant sa retraite, elle a pu tout lâcher. Et elle a retrouvé, elle a eu une grâce vraiment de confiance en Dieu. Elle m'a dit, ça y est, depuis, tout va bien, ma vie va bien, etc. Et pendant ce temps, son papa, qui était très très en colère, vous voyez qu'il avait du mal à retourner à la messe, qu'il priait peu, dans un état de violence intérieure. Son papa, qui gardait les trois autres enfants, au même instant, a eu la même grâce. Et ils m'ont appelé pour me raconter ça. Et ils m'ont dit, ça y est, on a compris comment Dieu a répondu à notre prière. Alors, je vous donne cet exemple, là, on sort un peu de Saint-Augustin. Et surtout, ils m'ont dit, on sait que c'est pas psychologique parce que le papa, il n'était pas au courant qu'il se passait la même chose de l'autre côté. Il a eu exactement la même grâce. Tout d'un coup, il s'est mis à pleurer. Il a crié et puis il m'a dit, j'ai eu la certitude que Dieu était présent, qu'il m'aimait comme un père. Je lui ai dit que je l'aimais, que je lui faisais confiance et que je lui faisais confiance pour ma fille, pour Agathe. Et ils ont tous les deux, ils étaient rayonnants de joie là, en m'appelant au téléphone. Et je me suis dit, c'est un très bel exemple, vous voyez, de Dieu qui remet de l'ordre sans que nous le comprenions. Parce que pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'ils ont pris ? Qu'est-ce qu'ils ont souffert ? Qu'est-ce qu'ils ont été en colère ? Vous voyez, ils ont été dans la nuit absolue. Et aujourd'hui, ils disent, nous croyons en la prière. Et donc, vous voyez, ça, pour Augustin, c'est une expérience très forte
parce que c'est l'expérience de sa conversion. Il dit, pendant des dizaines d'années, il a résisté à la grâce. Et sa mère priait, et sa mère pleurait. Et un jour, il a cédé à la grâce. Et vous voyez, il dit, je suis le fruit des larmes de ma mère. Donc, il dit vraiment, c'est l'efficacité de la prière de ma mère. Mais pourquoi la prière de sa mère a été efficace à ce moment-là? Alors, parce que sa liberté s'est ouverte. Mais il y a quelque chose qui est mystérieux et que nous ne pourrons jamais percer. Voilà. Et vous voyez, notre prière nous fait entrer, alors moi j'aime bien dire les yeux fermés, dans le mystère de Dieu. Nous savons que nous lui donnons la main pour déverser sa miséricorde sur ce monde, mais nous ne le voyons pas. Et donc, il y a ce jeu hein, dans la prière de « je sais avec certitude qu'il m'entend et qu'il m'exauce, je sais avec certitude que je ne peux pas voir comment. » Et donc, plus je lui demande, plus je lui fais confiance. C'est l'inverse du système de la balance.
La balance, c'est le prix est annoncé, va falloir mettre 10 kilos dans la balance. Une fois que j'ai mis mes 10 kilos, je suis quitte. Le système de la confiance, c'est différent. Et là, c'est là où Augustin nous dit, la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Vous voyez, c'est mettre de l'amour et faire confiance. Voilà, c'est vraiment mettre de l'amour dans l'obscurité de la foi. Et pour Augustin, c'est vraiment une expérience personnelle vécue. Il a senti pour lui à quel point la prière agissait, mais de manière mystérieuse. Alors, il donne un autre exemple. Il a eu un ami qui était son ami. Il dit, c'était un autre moi-même. Nos âmes se comprenaient. Donc, vraiment, à tel point que des gens ont dit qu'il était homosexuel. Bon, il n'y a aucune raison de le croire. Il a eu vraiment un meilleur ami quand il était jeune homme. Et cet ami est devenu gravement malade, a eu quelque chose comme une fièvre tropicale ou quelque chose comme ça, et est tombé dans le coma. Augustin n'était pas chrétien à l'époque. Hein. Et il tombe dans le coma, et pendant qu'il est dans le coma, pendant qu'il est inconscient, ses parents le font baptiser. Chose incroyable, cet ami sort du coma, et on lui dit, bah, pendant que tu étais dans le coma, on t'a fait baptiser. Et Augustin lui dit, bon, c'est bon, t'étais pas conscient, t'as pas dit oui, nous on recommence notre vie comme avant. Et son ami lui dit, non, j'ai été baptisé, je vais vivre selon mon baptême. Et il se sépare, et Augustin souffrira d'ailleurs du fait que son ami lui le met à distance, dit, je ne veux plus vivre comme toi, puisqu'il vivait comme un vrai débauché. Et ça a été l'occasion pour Augustin de méditer sur ce mystère que, vous voyez, son ami n'y était pour rien à son baptême. Il a été baptisé, non pas contre sa volonté, mais sans sa volonté. Comme un petit bébé qui est baptisé. Sauf que le baptême a été efficace. Vous voyez, pour Augustin, il a touché quelque chose là du mystère de la grâce qui ne dépend pas que de notre liberté. Et ça, c'est très, très mystérieux. Dieu donne une grâce qui vient attirer notre liberté jusqu'à lui. Et son ami a fait l'expérience, en se réveillant du coma, que la grâce qu'il avait reçue au baptême, il avait envie de la vivre. Et vous voyez, là aussi, c'est vraiment le mystère de la communion des saints, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes que moi qui peuvent participer à ma vie chrétienne d'une manière mystérieuse. Alors moi, j'aime bien raconter, le jour de mon ordination, je vois arriver vers moi une dame d'un certain âge qui vient me dire, j'ai prié pour vous tous les jours depuis 25 ans. Je ne l'avais jamais vue. Et alors j'étais un peu surpris, au début je me suis dit, c'est une timbrée, hein, voilà. Et elle est venue, et puis alors elle m'explique, mais en fait, j'avais rencontré vos parents à Lourdes, vous étiez avec vos parents, et puis vous étiez, enfin je sais pas quoi, j'avais été sage à la messe, ou enfin un truc, mais très ténu, tout petit. Et elle a prié pour moi tous les jours de ma vie. Moi, j'ai eu l'impression d'un abîme qui s'ouvrait devant moi. Vous voyez, quelqu'un m'avait tenu la main et je ne le savais pas. Alors ça, moi, je voudrais insister là-dessus sur la prière d'intercession. Donc quand on prie pour une intention particulière, c'est une prière importante, la prière d'intercession, parce qu'elle nous permet de donner la main à Dieu dans le gouvernement miséricordieux du monde. Mais de manière obscure. Sinon, et Augustin a cette remarque, il dit « Dieu est obligé de nous laisser dans l'obscurité. Parce que sinon, nous qui sommes marqués par le péché, nous agirions d'une manière un peu manipulatrice. » Alors il dit « Si Dieu n'exauçait par exemple que les bons, alors les méchants deviendraient bons pour être exaucés. S'il n'exauçait que les méchants, alors les bons diraient « ça sert à rien, allons. » Donc Dieu nous cache la logique de sa réponse à notre intercession. C'est assez drôle comme manière de dire, mais quand on y réfléchit, heureusement qu'on ne sait pas à quelles conditions on est exaucé. Sinon, on serait des marchands de tapis. Oui, un petit peu comme Abraham pour Sodome et Gomorre, là. Allez, on négocierait. Et pour 20, allez, et pour 15, voilà, et pour 10, oui, on fait baisser le prix. Mais c'est ce qu'Augustin dit là. Je trouve qu'en fait, ça nous permet de comprendre que l'obscurité dans laquelle Dieu nous laisse, c'est encore une miséricorde de sa part. C'est une manière de respecter notre liberté et de nous mettre vraiment dans un acte libre quand nous prions. Et l'intercession, c'est nos libertés qui collaborent avec la liberté divine. Dans le noir, c'est vrai. Donc voilà, premier
sujet d'aujourd'hui, la prière d'intercession. C'est, pour beaucoup de nos contemporains, c'est la seule prière. Vous voyez, on prie pour une intention particulière, pour la paix dans le monde, pour un ami, etc. Et ils ne connaissent que celle-là. Pour Augustin, c'est le premier palier de la prière, c'est la première marche. On va voir ce qu'il nous dit, que demander à Dieu. Mais je pense que c'est important de ne pas oublier ce premier palier aussi pour nous, et d'oser intercéder pour le monde. On peut intercéder pour la paix en Afghanistan, mais on peut intercéder pour son voisin de palier qui nous sourit tous les jours pour qu'il connaisse Dieu. On peut intercéder, vous voyez, quand on est dans une... Moi, j'aime bien faire ça, dans un wagon de train, de dire « Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont dans ce wagon et qui sûrement ne te connaissent pas. » On peut intercéder pour tous ceux qui meurent à l'heure où nous parlons. Enfin, voilà. N'ayons pas peur d'intercéder, cela fait partie vraiment de notre travail de permettre à Dieu de donner sa miséricorde dans ce monde d'une manière mystérieuse. Deuxième forme de prière, c'est ce que Augustin se pose la question, il dit « Que demander à Dieu ?» Et il répond « Nous avons une chose à lui demander, lui. Demander Dieu à Dieu. » Alors, pourquoi ? Parce que ce que nous avons à demander, c'est notre bonheur, c'est notre bien. Et quel est notre bien ultime ? C'est Dieu lui-même. Et demander Dieu à Dieu, c'est demander la sainteté. Seigneur, fais que je te connaisse. La sainteté, oui. La sainteté, non pas comme perfection morale, mais comme participation à la vie de Dieu. Demander Dieu à Dieu, c'est la prière de l'aveugle. Seigneur, fais que je vois, que je te vois, que je te connaisse, que je t'aime. Alors, ça, c'est vraiment une des prières les plus fréquentes d'Augustin. Vous voyez, il dit souvent « Que le Seigneur me donne ce qu'il y a d'éternel, qu'il me donne son Verbe, Dieu, qu'il se donne à moi lui-même, lui-même Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, je me tiens comme un mendiant devant sa porte. » Cette prière, vous l'avez à la page 79. C'est un commentaire du psaume 102. Et Augustin, très souvent, nous dit, en fait, le but de la prière d'intercession,
c'est de nous faire désirer ce qu'il y a de plus désirable. Donc il a ce qu'on appelle, il développe ce qu'on appelle la pédagogie de l'élargissement du désir. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Augustin nous dit, bah, naturellement, on va demander à Dieu la pluie, le beau temps, la santé, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que notre désir s'étende à des biens plus grands et plus hauts, et jusqu'à, finalement, lui-même. Alors, je voudrais vous citer ce très beau texte. « Dieu te dit, demande ce que tu veux. Que lui demandes-tu donc ? Élargis le cercle de tes pensées. Donne toute leur ampleur à tes désirs de posséder. Écarte autant que possible les limites de ton ambition. Dilate ta convoitise. Demande ce que tu veux. Cependant, tu ne trouveras rien de plus précieux ni de meilleur que celui qui a fait toute chose. Demande à posséder le Créateur lui-même, et en lui et par lui, tu posséderas tout ce qu'il a fait. » Alors, ça me semble très très important d'entrer dans cette... je vous avais parlé du désir la dernière fois, hein, dans ce qu'Augustin appelle l'élargissement du désir. Devant Dieu, nous sentons que nous manquons. C'est une expérience universelle. Nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut. Si nous avions tout ce qu'il nous faut, nous serions parfaitement en paix, tranquilles et reposés. Justement, nous ne sommes pas en repos. Alors, les premières choses que nous demandons, c'est un peu d'argent, un travail, et c'est légitime. Le beau temps, quelques amis, la paix en famille, ce sont des biens légitimes. Aucun ne nous comble à la hauteur de notre soif. Et donc, vous voyez, la prière d'intercession a comme deuxième rôle de nous faire expérimenter que seul Dieu peut combler notre soif. Voilà. Nous demandons des choses pour nous, nous demandons des choses pour les autres, mais nous sommes jamais complètement rassasiés parce que seul Dieu est à la hauteur de notre désir. Mais nous ne le savons pas. Nous n'avons pas une conscience complète et tous les jours. Voilà, il y a des jours où on se dit, aujourd'hui, je ne rêve que d'une chose, c'est de me coucher et d'avoir mon oreiller. Et ce sera bien. Sauf que dès que je vais me réveiller, ben, il me manquera encore quelque chose. Et ce bonheur infini et définitif, c'est Dieu lui-même. Et Augustin nous dit, c'est aussi pour cela que Dieu te fait attendre avant de t'exaucer. Hop. Il dit, Dieu élargit ton désir comme si tu étais comme un sac, prends cette image, un sac dont l'encolure est un peu étroite. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de tirer dessus, vous voyez, de dilater le col du sac pour faire rentrer, je ne sais pas quoi, notre parapluie ou notre téléphone. Vous voyez, on met un téléphone, ça arrive qu'on ait des petits sacs là, à téléphone, puis ça ne rentre pas, alors on tire dessus, on pousse. Et Augustin nous dit, quand Dieu te fait attendre, il tire sur ton désir pour l'élargir, pour que toi tu expérimentes que ce que tu désires en fait à travers tous les biens, c'est Dieu lui-même. Ce qu'on peut en tirer pour notre prière, c'est quoi? C'est quand il nous semble que Dieu ne répond pas, quand il nous semble qu'on attend, que c'est long. C'est souvent quand même que c'est long. Hein. Ouais, qu'on prie toujours... Même pour des choses, voilà, pour être libéré d'un trait de caractère, d'un de nos péchés. Voilà. Seigneur, je suis colérique, je m'énerve tout le temps. Libère-moi de ça. Et puis 10 minutes après, j'ai une mauvaise nouvelle, je m'énerve. Après, je dis, oh Seigneur, j'en peux plus, etc. Et Seigneur ne nous répond pas. Hein, on traîne son boulet, son caractère. Voilà. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, le but, c'est pas que tu sois sans colère. Ça, ce n'est qu'un moyen. Le but, c'est que tu sois avec Dieu. Le but, c'est que tu sois en lui. Le but, c'est que tu le possèdes. Et Augustin ose dire, le but de notre prière, c'est de posséder Dieu. Alors, c'est assez fort, et je voudrais m'arrêter là-dessus, puisque Augustin en fait venir le but de la prière. Évidemment, on ne possède pas Dieu comme on possède une paire de lunettes, pas à la manière d'un bien matériel. Mais ce qu'il veut dire, c'est que, vous voyez, c'est pas j'ai mis la main sur Dieu. Il y a des théologiens modernes qui diraient attention, on ne met pas la main sur Dieu, Karl Barth en particulier. Mais quand Augustin dit posséder, c'est que je peux l'aimer à tout instant. Vous voyez, ce que j'ai en ma possession, je peux en jouir à tout instant. Si j'ai un paquet de bonbons dans mon sac, je peux en prendre un toutes les minutes. Si le paquet de bonbons, je ne le possède pas, mais qu'il est dans le sac de mon frère, il faut que je lui demande l'autorisation ou que je profite d'un moment, il ne me regarde pas. Si je possède Dieu, alors chaque fois que je me tourne vers lui, que je le regarde, Dieu se donne à moi. Et c'est ça le terme de la prière, c'est cette présence habituelle où je peux dire que je possède Dieu et que Dieu me possède. Parce que nous sommes si proches l'un de l'autre que nous sommes toujours comme à disposition l'un de l'autre. Et pour Augustin, c'est le terme de la prière. Le but de la prière, c'est ça, c'est de posséder Dieu. Et la possession, pour lui, c'est l'acte de l'amour. C'est page 76, c'est le sermon 233, c'est la citation qui est en haut de la page. C'est Dieu qui parle, le Seigneur qui dit « Voici que je suis là, que me veux-tu? Que demandes-tu? Tout ce que je te donnerai a moins de prix que moi-même. C'est moi qu'il te faut posséder, moi qu'il faut prier, moi qu'il faut embrasser. » Alors là se révèle l'Augustin très intime, le vrai mystique, le vrai maître spirituel, qui est un peu comme saint Jean de la Croix, vous voyez, qui dit « Dieu est mon tout. Ce que je veux posséder, c'est Dieu lui-même. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. » Voilà. Et quand je dis « de t'appartenir », je peux renverser la proposition. Je n'ai d'autre désir que tu m'appartiennes, pas pour que je te possède, vous voyez, comme un bien matériel que je garderai pour moi, mais pour que sans cesse je sois avec toi. Donc là, nous avons bien le terme de la prière. Ce qui conduit Augustin à un troisième temps, vous voyez, on a fait prière d'intercession, demander Dieu lui-même et le posséder, et le troisième temps, c'est la louange. Alors vous voyez, j'ai interverti l'ordre des chapitres, hein, puisque le chapitre sur la louange est à page 53 et suivante. Et la louange et la joie, c'est chez saint Augustin une note permanente. On en a fait quand on le décrit, souvent on décrit un homme tourmenté, on décrit un homme pessimiste. Alors ça, c'est le saint Augustin recomposé au XVIIe siècle, voire au XIXe siècle. Pessimiste parce qu'il a écrit des traités sur le péché originel, sur la concupiscence, voilà. Bon. Mais le maître spirituel, le véritable Augustin, c'est un homme joyeux, heureux. Pourquoi ? Parce qu'il est tout le temps dans la louange de se savoir créé par Dieu, aimé par Dieu, sauvé par Dieu. Il est perpétuellement dans cette certitude, la grâce m'a été donnée par le Saint-Esprit qui habite en mon cœur. Et donc la cause de sa joie, c'est ce que les théologiens appelleront l'inhabitation. Donc l'inhabitation, c'est cette doctrine que nous apprenons, hein, par le baptême, Dieu vient habiter en notre âme. Aujourd'hui, pour tout homme et toute femme baptisée, ou du moins qui a reçu la grâce, qui vit dans cet état de grâce, qui n'a pas rejeté cette grâce, le Père, en mon âme, engendre le Fils. Le Fils contemple le Père, et de cette contemplation mutuelle naît le Saint-Esprit. La Trinité est vivante en moi. Et pour saint Augustin, c'est tellement extraordinaire qu'il dit, mais quand on sait ça, on est heureux, et plus qu'heureux, on jubile. La jubilation, c'est un acte de joie qui sort à l'extérieur. Et Augustin prend un exemple, il dit, vous voyez, alors il a sous les yeux les caravaniers qui traversent le désert pour passer en Afrique noire et qui reviennent avec qui font du négoce entre l'Afrique noire et l'Afrique côtière, qui n'est pas encore le Maghreb, mais qui deviendra le Grand Maghreb. Et donc Augustin voit ces caravaniers qui traversent le désert du Sahara, qui était moins grand à l'époque. Et il dit, quand ils sont heureux, ils chantent. Et dit, alors il fait tout un paragraphe pour dire, le chrétien doit chanter, puisqu'il est heureux. Mais les caravaniers sont tellement heureux que parfois, ils en perdent les mots. Et ils font des syllabes inarticulées. Donc en fait, ils font la 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 la, comme on chante sous la douche, vous voyez, la 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 la, zaï 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 zaï, tout ce que vous voulez. Et il dit, ça c'est la jubilation. Et il dit, le chrétien doit être dans cet état de jubilation où nous n'avons même pas de mots pour dire notre amour, mais où simplement nous exultons parce que Dieu se donne à nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous sauve. Et ça doit être l'état habituel du chrétien. Alors, je vais prendre la citation de la page 60, c'est une prière qui est tirée des Confessions. « Que mon âme te loue pour t'aimer et te confesse tes miséricordes pour te louer. » Alors voilà, ça c'est vraiment important. La louange qui naît de ce cœur, cette jubilation, c'est la louange. Que ce soit au sens charismatique, vous voyez, de la louange où on chante en levant les mains, ou au sens plus ancien, le grégorien est une forme de louange. Vous voyez, quand on passe, quand il y a 18 modulations sur une seule syllabe, vous voyez, par exemple, ce matin, on chantait « Alléluia ». La suite, c'est quoi? C'est pas le gars qui s'est lâché avec son crayon pour dire « je vais rajouter des A ». C'est qu'il est tellement heureux qu'il n'en finit pas de chanter « Alléluia ». Donc il y a plein de manières de louer. On peut louer en levant les mains, on peut louer en chantant, on peut louer en criant sa joie, on peut louer par du grégorien, on peut louer en jubilant à l'intérieur. Mais ce qu'Augustin nous dit, c'est que cette prière de louange n'a pas d'autre but que Dieu lui-même. Vous voyez ce qu'il dit dans cette citation. « Que mon âme te loue, donc louange, pour t'aimer, pour l'amour, et te confesser tes miséricordes, c'est-à-dire pour dire à Dieu lui-même ses miséricordes. » Donc c'est « je proclame, proclamer la miséricorde. Pourquoi ? Pour te louer. » Donc vous voyez, la louange, elle est comme un cercle. Je loue Dieu, ça me rend encore plus amoureux de lui, donc je proclame qu'il est grand, qu'il est bon. Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? De le louer, et ça recommence. Voilà, ça c'est le sommet de la prière, une prière de louange. Alors, je voulais vous inviter, dimanche prochain, à bien écouter le Gloria. Tous les dimanches, on dit, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions pour ton immense gloire. Je veux dire, c'est le cœur de la prière de louange. Vous voyez, nous, on dirait, si je vous demandais, j'aurais pu faire un exercice, c'est-à-dire, pourquoi nous pourrions glorifier Dieu ? Parce qu'il est bon avec nous, parce qu'il nous exauce, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il nous pardonne nos péchés. Et encore, c'est moi. Augustin nous dit, la louange, c'est pour Dieu lui-même. Vous voyez, nous te glorifions pour ton immense gloire. Je glorifie Dieu, pourquoi ? Parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est Dieu. Et notre joie, c'est Dieu lui-même. Même pas ce qu'il fait pour nous, c'est je le vois dans son être, dans son être de Trinité glorieuse, et ça me remplit de joie. Alors, c'est pas évident, au sens, c'est pas spontané, mais faites cette expérience de vous dire, quelle est la source de ma joie aujourd'hui ? Alors, je me lève ce matin. Moi, ce matin, le programme, c'était de monter 1,6 tonne de meubles Ikea. Alors, oui, c'est pas ma tasse de thé. Donc, on va voir. Mais avec mes frères, on a chanté les Laudes. Je me suis dit, journée pourrie peut-être, temps pourri peut-être. Mes frères peuvent être pénibles, peut-être. Je ne sais pas quoi, je peux avoir des coups de téléphone désagréables, j'en sais rien. Mais Dieu est Dieu. Et c'est lui mon trésor. Et c'est lui que j'aime. Et c'est lui que je possède. Et Dieu est grand.
et Dieu est merveilleux, je te glorifie pour ton immense gloire. Et ainsi de suite. Et vous voyez, c'est comme une note de joie. Vous voyez, dans la musique, parfois vous avez ce qu'on appelle un ostinato. Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous. C'est un thème qui se répète tout le long d'un morceau. Deuxième mouvement de la symphonie numéro 7 de Beethoven. Ou le boléro de Ravel. Voilà. Ou symphonie numéro 7 de Beethoven, le deuxième mouvement, c'est... Voilà. Et on répète. Et par-dessus peut se développer un autre thème. Etc. Mais ce que nous dit Augustin, c'est qu'il y a un ostinato dans notre vie. Un thème qui se répète tout le temps. Par-dessus, il peut se passer n'importe quoi. Des joies, des peines. Mais cette musique-là ne cesse pas. C'est la louange au fond de notre âme. C'est notre joie parce que Dieu est Dieu et que lui ne change pas. Et voilà, ça c'est une libération quand on le comprend. Parce que, vous voyez, nos journées sont quand même pleines de contrariétés, de déceptions, parce que nous vivons au milieu des hommes et des femmes qui sont décevants, il faut le dire. On travaille avec des gens extraordinaires, mais ils sont tous décevants un jour ou l'autre. Ah oui. Vous voyez, c'est... Mais justement, ce que nous dit Augustin, c'est si ton désir s'arrête à des choses créées, tu seras toujours déçu. Si ton désir va vers Dieu lui-même, comme il se donne, il y aura en toi cette satisfaction permanente, cette jubilation permanente. Et une prière à l'école de Saint-Augustin, c'est une prière où il peut y avoir de la peine, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir tout ce que vous voulez, il y a au fond cette note de joie et de jubilation. Et je vous invite à en faire l'expérience, c'est-à-dire que quelle que soit votre prière, alors ça peut être toute forme de prière, une prière récitée, le chapelet, une prière méditée à partir de la parole de Dieu, une prière, on peut prendre un psaume, on peut prendre une prière silencieuse, l'oraison silencieuse du matin, enfin, ou du soir, mais qu'il y ait toujours cette note de jubilation, de dire « Seigneur, tu es mon tout, je te possède, je ne manque de rien, je suis heureux, je jubile. » Voilà. Je devrais pouvoir dire à chaque instant « je jubile voilà, ». Que mon émotion, et Dieu sait si parfois elle peut être forte, hein, de colère, de déception, de tristesse, n'arrive jamais à éteindre ma jubilation intérieure. Et c'est ce qui fait que Augustin dira que nous pouvons vivre comme, il dira, notre vie entière peut devenir un chant de remerciement, de louange à Dieu. Ce qu'il dit, si tu jubiles, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ce qui fait plaisir à Dieu. Et donc tu vas le faire, non pas pour penser, j'ai effacé la balance, pour dire, Seigneur Jésus, je fais un acte bon et tu m'accordes ça en échange. Hein. Je rajoute un truc sur la balance. Allez, on est comme un marchand qui a toujours peur de ne pas avoir son marché. Mais je fais gratuitement. Je jubile. Allez, Seigneur, c'est pour toi, tu es l'amour de ma vie, donc je le fais pour te faire plaisir et pour te louer et pour te rendre gloire. Je suis heureux de le faire. Y compris, je sais pas, de dire bonjour à ma machin qui est pénible, monsieur truc qui entend rien et qui est long, enfin, etc. Je le fais pour toi. Vous voyez, ça nous libère d'une morale du devoir pesante. C'est ton devoir d'aller visiter tes voisins. Ouais, c'est pas bien si tu le fais pas. C'est vrai à un premier niveau. Mais au fond, je le fais pour rendre gloire à Dieu parce qu'il est présent dans ce voisin. Et donc je le fais, vous voyez, cet acte-là continue ma prière de jubilation. Et donc Augustin pourra dire, toute notre vie devient une louange, un grand acte de louange. Alors, ça, je voudrais vous le lire. Tu veux vraiment louer Dieu ? Sois toi-même ce que tu chantes. Tu es une louange à Dieu si ta vie est sainte. C'est à la page 58, c'est la citation avant la note numéro 9. Donc, du sermon 34. Donc, tu es une louange à Dieu si ta vie est sainte. Je voulais juste vous faire remarquer que une vie sainte, nous, on l'envisage souvent comme une vie parfaite, comme une vie où il y a beaucoup d'efforts, comme une vie où on arrive à vaincre le péché. Vous voyez, c'est lourd.
Ça fait peur. Et ici, Augustin nous dit, c'est quoi une vie sainte? C'est une vie de louange. Tu es une louange si ta vie est sainte. Et vous voyez, il nous dit en fait ce qu'est notre vocation. Être une louange à Dieu. Et je vous fais remarquer qu'au ciel, dans l'éternité, ce qui fera notre bonheur, c'est de contempler Dieu et de chanter sa louange. Alors, nous serons une louange. Et nous anticipons le ciel si déjà sur terre, nous sommes une louange. Que notre vie devienne louange, que nous soyons nous-mêmes une louange. Alors, juste après, voilà, la page 59. Vous savez effectivement que dans notre langue, Alléluia signifie louer Dieu. C'est pour nous le chant du voyageur. Mais en traversant nos laborieux sentiers, nous cherchons le repos de la patrie, c'est-à-dire le repos du ciel. Et là-bas, là, toute autre occupation cessant, nous n'aurons plus qu'à redire Alléluia, c'est-à-dire louange à Dieu. Et il poursuit un peu après, c'est la citation suivante. Oh le bienheureux Alléluia de là-haut, dans quelle sécurité nous le chanterons, là où il n'y aura plus d'adversaire, où toute inimitié aura fait place à une inaltérable amitié. Louange à Dieu là-haut, louange à Dieu ici-bas. Donc pour aujourd'hui, je voudrais que vous repartiez en vous disant, je veux louer Dieu, voilà, je veux le louer par ma vie, je veux le louer dans ma prière, et que vous ne puissiez pas faire une prière sans ajouter, Seigneur, louange à toi, gloire à toi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vous voyez, toutes ces formules de louange et de gloire que nous lègue la parole de Dieu. Hein, sois béni Seigneur, sois béni pour ta gloire, pour ta beauté. Et vous voyez, même en nous promenant, on peut bénir toute chose. Sois béni pour ta pluie, sois béni pour les gens, que tu es grand, que tu es beau. Voilà, que nous soyons toujours dans cette jubilation intérieure. Ce n'est pas de la pensée positive. La pensée positive, c'est « je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux et je vais finir par le croire ». C'est pas ça. Puisque là, ça se fonde sur une certitude, c'est que Dieu se donne à moi. S'il s'est donné, je suis heureux. Je ne manque de rien. Je vous propose de finir la prière qui est à la page 60. J'ai commenté juste la première phrase tout à l'heure. On va la reprendre au début. Donc c'est une prière qui est dans les confessions. « Que mon âme te loue pour t'aimer ». Et te confesse tes miséricordes pour te louer. Il n'est rien qui cesse ou taise tes louanges dans l'univers que tu créas. Ni les esprits, ni les êtres animés, ni les êtres matériels. En sorte que notre âme s'éveille de sa lassitude et s'élève jusqu'en toi en s'appuyant sur les choses que tu as faites pour passer jusqu'à toi qui les fit merveilleusement. Là se trouve le réconfort et la vraie force. Amen.
Vous venez de suivre la prière d'intercession et la prière de louange, une conférence du Père Michel Leclerc, chanoine de la Grâce à Pau. C'était la suite des sessions à l'école de Saint-Augustin, organisée par l'école de prière de la formation permanente du Béarn.